Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique. Un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Dans le cadre du 17e Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale, qui a lieu le 1er mai à Arras, l'association Colère du Présent est heureuse de vous inviter le samedi 28 avril de 14h30 à 17h30 à l'hôtel de Guine rue des Jongleurs à Arras pour discuter sur la thématique suivante « Quel avenir pour nos campagnes ?» Entre poubelles géantes, aménagements délirants, fermes, usines et autres projets faramineux, il est urgent de se poser la question de l'avenir de nos campagnes. Parce qu'il s'agit autant de notre rapport à la nature, à l'environnement, que de questions d'alimentation, d'hygiène et d'économie, comme le résume bien Aude Vidal. La réduction des relations entre êtres humains et animaux à un rapport de domination fait perdre de vue celui de la soumission toujours plus poussée de toutes et tous à la société industrielle. Le monde se referme, la liberté cède le pas devant le contrôle systématique, les relations sociales deviennent toujours plus impersonnelles et inhumaines. Au fond, ce que nous faisons subir aux animaux, une vie administrée, nous l'infligeons à nous-mêmes. Un point de vue critique de l'individualisme, pas seulement anticapitaliste, est alors nécessaire. Le débat se terminera par la lecture de « Nous étions debout et nous ne le savions pas » par son autrice Catherine Zambon. C'est donc une après-midi de débat en présence des collectifs Novicennes, Eves, Dessicans, Burstop, d'éleveurs et agriculteurs de la région, de la Confédération Paysanne, avec la participation de Pierre Rose, Virginie Maris, Gaspard Dalins et Catherine Zambon. C'est le samedi 28 avril de 14h30 à 17h30 à l'hôtel de Guine à Arras, rue des Jongleurs. Lundi 30 avril à Salomine, ciné-déma autour de la question de la Palestine avec la diffusion du film Omar de Annie Abou Assad, film de 2013. Cette soirée est organisée par la Jeunesse communiste du Pas-de-Calais avec la participation de l'association France-Palestine Solidarité Nord-Pas-de-Calais. C'est donc lundi 30 avril à 20h à la Maison de l'Art et de la Communication, rue Arthur Lamondin à Salomine. Participation financière libre à partir de 2 euros. Mardi 1er mai, salon du livre d'expression populaire et de critique sociale à Arras toute la journée. Venez nous retrouver sur les stands de Politis 62, du LAG, de Au Secours 62, du planning familial, des objecteurs et objectrices de croissance du Pas-de-Calais, etc. À noter, Micro Rebelle anime un débat sur le stand radio de nos amis de Radio PFM. À l'occasion de ce débat, nous échangerons avec Guillaume Pitron qui vient d'écrire le livre « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ». Nous proposerons bien entendu l'enregistrement de cet échange en podcast et en téléchargement sur notre site microrebelle.fr. C'est donc mardi 1er mai à Arras toute la journée. Vendredi 4 mai, retour sur mai 68 avec le film « Reprise ». Ce film, sous-titré « Un voyage au cœur de la classe ouvrière », est un film documentaire français sorti en 1996, autour du film de mai 68 « Reprise du travail aux usines Vendère ». C'est un film réalisé par Hervé Leroux. Au début, c'est une photo dans une revue de cinéma. Une jeune femme brune, révoltée, qui crie. Nous sommes en juin 68, c'est la reprise du travail aux usines Vendère après la grève de mai. Deux étudiants de l'IDEC filment la scène. On y voit des ouvrières de Vendère à Saint-Ouen qui reprennent le travail après 3 semaines de grève. Et cette jeune femme qui reste là et qui crie de nouveau. Elle crie qu'elle ne retournera pas au travail, qu'elle ne veut plus retrouver la saleté, les cadences, la méprise de cette tôle. Plus de 30 ans après, hanté par le visage et la voix de cette femme, Hervé Leroux est parti à sa recherche. Le résultat de son travail, ce documentaire, dure 3h12. La séance démarrera donc précisément à 19h au LAG. La projection de ce film constitue le point de départ des initiatives organisées par le secteur éducation populaire de CLIS 21 et le LAG concernant les événements de mai 68. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir « Bruit qui court ». Est-ce du rock? Est-ce du rap? Bruit qui court est un groupe hybride de Toulouse qui se produit sur les deux scènes et, au final, n'appartient à aucune, sinon à la sienne. Ce qui va plutôt bien à un groupe libertaire, prônant l'insoumission et le réveil des consciences. On aime ou on n'aime pas, mais on est forcément secoué par les textes scandés, vociférés, dont la puissance a à voir avec une ponctuation musicale riche et bien dosée. Nous écoutons « Je n'ai pas peur ».
Ils ont versé des larmes sur nos mains quand nos poings auraient dû se fermer, quand nous n'étions pas, quand nous n'étions plus. Ils ont versé des larmes sur nos rêves et nos frissons, sur leurs fantasmes et leurs mensonges. Ils ont déversé leurs coups de pompe, leurs bêtises absurdes remplies d'un peut-être quand nous, nous n'en rêvions plus. Ils ont menacé nos mères, nos frères, de ne plus jamais voir les lumières, de ne plus jamais avoir le choix. Mais je n'ai pas peur, et toi non plus. Je n'ai pas peur, et toi non plus. Ils ont versé des larmes sur nos mains quand nos poings auraient dû se fermer. Et nous, absents une fois de plus, quand seuls ils pensent être tous, quand seuls ils pensent être nous et que nous n'existent plus. Et depuis si longtemps, ils ont enfoncé les portes, ils ont menacé les faibles et les forts de ne plus jamais avoir le choix. Mais notre rage n'est jamais qu'endormi, quand notre bruit réveillera les morts. Notre rage baisera leur nuit. Notre rage baisera leur nuit. Je n'ai pas peur, et toi non plus. Je n'ai pas peur, non.
personne n'y bouge, personne ne réagit. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur, vous allez perdre, les gars.
Vous avez peur? Ben vous allez perdre, les gars.
Maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Aujourd'hui, nous revenons bien évidemment sur les luttes sociales en cours. Le 19 avril dernier, c'était une journée de mobilisation concernant les étudiantes et étudiants, les cheminots, ainsi que d'autres travailleuses et travailleurs d'autres professions. La grande idée, dont s'empare un peu tout le monde, les syndicats et les médias notamment, c'est l'idée de convergence des luttes. C'est une idée qui n'est pas nouvelle et qui s'inscrit dans la perspective d'un grand mouvement qui rassemble toutes celles et ceux qui luttent contre un même adversaire, le capitalisme. Ça n'est pas inutile de rappeler ce côté anticapitaliste qu'il y a toujours eu derrière la convergence des luttes, à un moment où les médias ramènent cette convergence des luttes à une mobilisation interprofessionnelle touchant des catégories de salariés différentes. C'est vrai que la mise en action de métiers et de catégories différentes, ça compte, mais il nous semble important de souligner que le caractère anticapitaliste de cette mise en mouvement est également un axe essentiel. Ce sont des considérations que l'on pourra relever dans le reportage qui suit, un reportage de Luc, durant la manif du 19 avril à Lens.
Augmenter les retraites, il n'y a pas branché ta main. Macron, t'es foutu.
Bon, chers camarades, alors merci à tous les syndicats qui ont répondu présents aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une manifestation improvisée, on devait être à l'origine à Lille. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, on n'a pas réussi à trouver de compagnie de bus. Le directeur de cabinet du préfet m'a dit la main sur le cœur, y compris le président des transporteurs voyageurs du Pas-de-Calais, c'est pas nous. Mais c'est la première fois que ça arrive, c'est qu'on a appelé des dizaines et des dizaines de compagnies à plusieurs endroits dans le département, et ben, il n'y a pas de bus. On a dit c'est pas grave, on a fait une petite note, le secrétaire régional y a y compris écrit au préfet de région, et on a donc décidé de deux manifestations locales, une ici à Lens où nous étions près de 600, et une à Calais ce matin, parce que les Calaisiens devaient également partir sur l'île, où ils étaient 600. Rajoutez à ça les manifestations, les initiatives locales ce matin à Béthune, à Bruyères, etc., un petit peu partout dans le département, les distributions de tracts sous toutes les formes, ça fait que finalement, on est plus nombreux que si on avait été à Lille. Donc ils ont voulu jouer, on a joué aussi, et je pense que c'est en phase avec ce qu'on souhaite, c'est-à-dire ancrer le plus local possible. Et ça doit, et je l'ai dit ce matin sur le piquet de grève des cheminots, il ne faut pas qu'on mène une lutte par délégation, mais chacun dans nos entreprises, avec les moyens qu'on a, sous toutes les formes, arrêt de travail bien sûr, des journées de grève, des heures de débrayage, des pétitions, des tracts, l'information aux salariés, il y a tout le matériel qu'il faut alluder. Il y a un 1er mai à venir, un 1er mai unitaire au niveau départemental sur la Rajoie, mais ça viendra en supplément de tout ce qui se passera au niveau local. Il y a bien évidemment toujours à continuer à soutenir les cheminots sur leurs deux journées, sur les cinq jours qui font jusqu'au mois de juin, voire au-delà. Il y a les salariés des commerces, services, il y a les salariés d'énergie qui se mettent en branle, sans doute le transport, je vous l'annonce, le transport qui risque de bouger bientôt. Donc on est bien dans une journée de convergence, pardon, les retraités, évidemment, Marc Fessigne, mais toutes les spécificités et tous les territoires. Donc on est bien sur une journée de convergence, il y en aura d'autres, c'est paru, je crois, il y a deux jours, aussi le 22 mai dans la fonction publique. Donc voilà, c'est toutes des étapes comme ça. On a un président et un gouvernement qui pensent avoir raison, bon. Mais nous, on pense avoir raison aussi. Donc ils veulent aller dans la durée, on va aller dans la durée. Et puis ben, je pense, vu la montée de la colère et vu la réussite de nos manifestations à divers endroits, parce que c'était pas facile aujourd'hui quand même à la dernière minute comme ça à l'arrache, hein, ça va s'adapter. Donc je remercie également les unions locales de Lens, de Liévin, d'Arras, de Béthune et d'autres, hein, qui ont joué le jeu. Et puis ben, on est en train de faire la démonstration aujourd'hui que ce sera pas si facile que ça pour le gouvernement d'imposer leur choix. Ce sera pas facile non plus pour nous d'imposer le nôtre. Maintenant, à nous de continuer d'informer tous les salariés, actifs, retraités, privés d'emploi et toute la jeunesse à venir faire grossir ce mouvement déjà grandissant. Merci à toutes et à tous.
Alexis Goudemont, secrétaire des cheminots d'Arras Béthune.
Est-ce qu'on peut faire un point sur la mobilisation actuelle chez les cheminots ?
La mobilisation actuelle chez les cheminots, elle est très bonne, on va dire, selon certains secteurs. Après, bon, d'autres, on va dire... Essentiellement dans les bureaux, c'est un peu moins bon, voilà. Et on va dire sur le terrain, tout le monde roulant, le monde dans les postes, et puis en règle générale, on est entre environ un tiers de cheminots encore en grève, malgré ce que dit la direction ou le gouvernement. On est à peu près à ça, parce qu'ils ne prennent pas en compte tous les grévistes, parce qu'on a des grévistes qui font que 59 minutes, d'autres qui font que la moitié de la journée. Donc ils prennent en compte que ceux qui font la journée complète. Donc c'est pour ça que les chiffres officiels disent entre 25-28%, alors qu'en réalité on est au-delà presque des 33-35%.
Est-ce que tu pourrais simplement apporter des précisions sur ce qui s'est passé au Parlement cette semaine ?
La loi n'a pas été votée. C'est en première lecture à l'Assemblée nationale. Après c'est le jeu des navettes parlementaires qui va avoir lieu pendant encore quelques temps. Et en même temps, c'est pas une loi, c'est une loi sur les ordonnances. Donc c'est pas forcément encore... fini dans ce sens-là. Il y en a encore pour un bon mois et demi. Et la position, un, c'est bien sûr de le retrait de ce projet de loi, parce que c'est toujours un projet de loi, parce qu'il n'a pas encore été acté officiellement. Et de deux, c'est aussi d'améliorer les conditions. C'est-à-dire que on veut la fin du statut, mais en même temps, on nous propose pas quelque chose à côté. On nous a parlé à un moment d'une meilleure convention collective des travailleurs du rail, mais où sont les propositions du gouvernement et de Macron là-dessus ?
Est-ce que dans les négociations avec le gouvernement, il y a des lignes qui sont en train de bouger ?
Des lignes, je ne sais pas. Parce qu'on a eu une info tout à l'heure à midi. Enfin, elle est encore à vérifier, hein, parce que on sait très bien qu'il faut vérifier toutes les infos. Il semblerait que l'intersyndicale a demandé de ne plus discuter avec la ministre des Transports et de passer directement auprès du Premier ministre. Donc on va voir si déjà le Premier ministre voudra bien rencontrer l'intersyndicale et négocier avec lui. S'il refuse, c'est-à-dire que grosso modo, il n'en a rien à foutre de nous et ça reste au niveau du ministre. Et si, en même temps, s'il accepte, c'est-à-dire que la ministre des Transports, elle est un peu grillée. Bon, alors, je pense que M. Philippe, en ce moment, il va avoir le cul entre deux chaises de savoir ce qu'il va faire. Donc, nous, on attend. L'intersyndicale a fait une proposition auprès du Premier ministre. On va attendre ça truc. Après, sur les négociations, parce que c'est pas des négociations, c'est juste de l'information. Il leur dit ce qu'il veut faire, mais les autres... Si vous avez des propositions, c'est à la poubelle ou alors on vous écoute sans vous entendre. Et grosso modo, c'est pas de la négociation. De la négociation, c'est quand chacun avance pour trouver un juste équilibre et qui permette qu'on remette l'entreprise sur les rails. Et là, je pense qu'on a cassé une cloche d'un côté, il ne veut pas en démordre. Et je pense qu'à terme, ce qu'il veut, c'est son scalp des cheminots.
Est-ce qu'on peut prévoir un durcissement du conflit social et une intensification de la grève ?
Je pense que pour l'instant, le mouvement il est fort. Hein, les deux jours de grève suivis des trois jours de non-grève, etc., qui sont. Le mouvement, il reste fort, il reste encore cohérent. On le voit encore avec les chiffres du transport, qu'ils soient nationaux ou régionaux, hein, même si on voit un petit infléchissement. Mais je pense qu'on est parti sur la durée. C'est un marathon qu'on fait, c'est pas une course de vitesse. Et le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Après, c'est sûr que notre but, c'est de convaincre de plus en plus de cheminots, de plus en plus d'usagers, que ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est. C'est pour tout le monde, c'est viable pour tout le monde. Et on l'a vu en amont, qu'on parlait il y a quelques années des retraites, qu'on disait que les cheminots, on était le dernier verrou. et puis que nous on a lutté pour pas l'avoir en disant aux gens mais si nous on saute, vous allez ressauter. Les gens ils étaient pas avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris. 6 mois après, le privé et le public a repris encore sa réforme des retraites et était trop tard. Donc à un moment donné, il faut savoir que généralement, les cheminots, c'est toujours le dernier verrou de quelque chose. Donc si nous, on saute à nouveau là, peut-être que dans 6 mois, dans 9 mois, ça sera d'autres personnes qui sauteront et là, il sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut lutter et c'est maintenant qu'il faut aller jusqu'au bout.
Ludovic Lesage, membre du syndicat CGT des cheminots d'Arras-Béthune.
Alors tout à l'heure, tu m'as fait une réflexion sur l'utilisation des chiffres. De grévistes et autres d'ailleurs, parce que c'est en rapport avec d'autres manipulations de chiffres. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Pour moi, c'est qu'on a, certains médias qui peut-être à juste titre, et je demande à vérifier, nous indiquent que seulement 2/3 des cheminots sont en grève, que 2/3 de la population serait contre le statut des cheminots. Je dis soit, maintenant avec un peu de réflexion, il faut revenir un peu sur l'histoire. Combien se sont mobilisés contre l'esclavage, combien de parmi les Français encore vivants, s'il y en a encore, ont fait partie de la résistance pendant la France occupée par les nazis. Pour autant, est-ce que ces personnes-là, même minoritaires, avaient tort? Est-ce que pour autant ils n'ont pas réussi à faire valoir des valeurs que sont les nôtres aujourd'hui? Voilà, la question est posée. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que ce président, M. Macron, a été élu, si je me souviens bien, avec à peine un quart des votes des Français. Et parmi eux, combien ont réellement voté pour lui? Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'à la CGT, on est pratiquement 800 000 syndiqués. Moi, je pose la question, où se trouve le pouvoir?
Bah oui, bah là, écoute, c'est le dialogue de sourds, ça y est. C'est déclaré, les organisations syndicales se sont réunies hier soir. Hein. Voilà, on est tous sur la même position. Il n'y a plus de dialogue possible avec Madame Borne, ministre des Transports. C'est devenu voilà, un dialogue de sourds, un dialogue en sens unique, où elle ne veut pas entendre les revendications de la CGT. Hein. Nous, on a un cahier revendicatif hein, qui s'appelle la voie du fer. Donc, voilà. Maintenant, il va falloir qu'on négocie très certainement avec le Premier ministre ou quelqu'un d'autre. C'est plus possible, elle ne gère plus. Elle ne gère plus la situation. Donc tant qu'on reste sur un dialogue de sourds, voilà, les cheminots vont continuer le mouvement très certainement dans les journées qui viennent. Les prochaines, c'est lundi et mardi prochain. À mon avis, voilà, ça va encore amplifier. Bon, là, aujourd'hui, on a vu les copains aussi de l'énergie. Hein, bah voilà, ils vont pas exclure non plus de faire des coupures ciblées sur certaines entreprises. Donc bah voilà, moi je sens aujourd'hui quand même qu'il y a une belle mobilisation, un bel accueil de la population lensoise et de son bassin d'emploi. Gros soutien des gens, on l'a vu encore aujourd'hui hein, à travers sur les appuis de fenêtres, les balcons, des petits messages de soutien. Voilà, ça fait plaisir, ça redonne du baume au cœur pour les cheminots. Quoi. La convergence, il faut pas qu'elle s'arrête là. À mon avis, il va falloir qu'elle continue. On le sait, on est devant un gouvernement qui est dur, avec des positions dures, qui veut faire une régression de tous nos droits sociaux. Donc voilà, maintenant il faut donner de la voix.
Moi je suis Francine Robillard. Du Pas-de-Calais, bien sûr, militante à la CGT, militante au Parti communiste. Je ne peux pas être d'accord avec les lois Macron, quelles qu'elles soient. Moi, de toute façon, je suis retraitée depuis 23 ans, non à la hausse de la CSG. Hein. Là, je ne peux pas être d'accord. Hein. On n'est pas des nantis, loin de là. Hein. Moi, des privilégiés, j'en connais pas beaucoup, je les côtoie pas. Hein. Alors, non, moi, j'ai travaillé 43 ans pour voir ce que j'ai de retraite. Je n'ai pas les 1200 euros, hein. Loin de là. Hein. La caisse des services publics, il y a eu la Poste, maintenant il y a la SNCF, les hôpitaux, ça va plus. Les EHPAD, ça va pas non plus. Hein. Alors, on se pose des questions, nous. Là, il bat tous les records, hein, celui-ci. Je ne peux pas l'encaisser.
Joël, territorial de la ville de Vingles. Et ce qui me mobilise, c'est les augmentations de salaire, le pouvoir, les droits qu'on avait, tout ce qu'on perd, quoi. C'est pas normal, on peut pas laisser passer ça. Et ce qui est pire, c'est le privé, parce que si on tape sur nous, qu'est-ce qui va devenir du privé ? Quand on t'a gelé le point à 10, on l'a récupéré à 1,2, et on te l'a déjà arrêté. Je sais pas, un salaire, je suis agent de maîtrise, je suis à 1400. J'ai plus de 30 ans de profession. Faut pas dire qu'on est des nantis. Hein. Puis le boulot, on le fait comme tout le monde. Et je viens du privé, donc...
Alors, je m'appelle Lily. Et je travaille à Lens habituellement. Donc du coup, je suis contente de pouvoir manifester à Lens plutôt qu'à Lille ou à Paris, où on centralise toujours beaucoup. Et sinon, je suis militante au planning familial du Pas-de-Calais. Mais je viens pour un mécontentement plutôt général. Effectivement, le gros du mécontentement, c'est sur la loi travail. Et puis la déconstruction du socle que constituait effectivement le service public. Donc là, c'est par le train, mais on pourrait parler de bien d'autres choses, en fait. Le fait de se dire que le service public ne servirait plus à rien parce qu'on serait dans une société où tous les citoyens seraient soi-disant égaux et auraient assez les moyens pour pouvoir se débrouiller de manière dans des choses de privées qui sont toujours nécessairement plus chères et plus individualistes. Moi, je crois encore à l'organisation collective en fait, de la société.
On parle pas mal en ce moment de la convergence des luttes. Est-ce que ça a du sens pour toi et lequel ?
Bah complètement. Après, je pense qu'on en parle à chaque fois qu'il y a un mouvement social. Moi, j'ai l'impression que souvent, quand je vais en manif, on l'espère, en fait, cette convergence des luttes, et elle est compliquée à mettre en place. Et en tout cas, en tant que militante féministe, on est complètement là-dedans. On sait que c'est une lutte qui devrait être collective, une lutte anticapitaliste, puisque c'est, à notre sens, la base de tout, le capitalisme qui installe la compétition entre les êtres humains, entre les différents services, et ce qui découle tous les sujets, les raisons de mécontentement à l'heure actuelle. Donc oui, je pense que les cheminots, les cheminotes doivent recevoir la solidarité de tout le monde, oui, effectivement, des fonctionnaires, des gens du privé également aussi, puisque si on se bat pour préserver des acquis dans les services publics, c'est aussi parce qu'on voit très bien comment ça se passe dès que ça a été privatisé, on voit comment ça se passe au niveau du privé, la peur de se faire licencier, la peur de parler, d'essayer d'améliorer ses conditions de travail ou d'avoir quelques mesures humaines dans une société où on sait qu'on peut rien dire parce que sinon on va se faire virer et on est mis en compétition les uns les autres. Donc oui, je pense que tout le monde, l'intégralité de la société devrait effectivement soutenir ces luttes. Parce qu'on parle pas de privilèges, là. Enfin, on nous rebat souvent les oreilles là, sur les cheminots, on nous parle des privilèges, non, enfin... déjà, c'est beaucoup de préjugés et des idées fausses qu'on véhicule sur le statut des cheminots. Et puis, les privilégiés, ils sont pas chez les cheminots, ils sont pas chez les fonctionnaires, ils sont pas chez l'institut du coin ou l'infirmière de l'hôpital. Non, les privilégiés, ils sont dans les hautes sphères qu'on ne voit jamais, qu'on ne peut pas nommer ou difficilement, et qui, eux, sont plutôt en train de se gaver à l'heure actuelle.
Je m'appelle Célia Maes, je suis en première ES.
Je m'appelle Pauline Lacour, je suis en première ES aussi.
Et donc on est là pour contre la réforme de Macron sur la sélection à la fac. Je veux que la fac soit sélective et nous on pense que c'est totalement quelque chose d'idiot parce qu'il faut laisser libre accès à tout le monde en fait.
C'est votre première manifestation ?
Non, on a déjà
fait une à Lille et on a fait celle à Lens il y a un mois.
Elle en est où la lutte dans les lycées ?
Dans les lycées en fait ça dépend quel lycée. Il y en a, ils sont totalement investis dedans, comme le lycée Picasso et à Avion, le lycée Picasso. Et sinon, ça avance plutôt bien, c'est surtout dans les facs qui sont mobilisés.
Et dans votre lycée, il y a des actions ou pas ?
Pas du tout. Ben, on a essayé en fait. On a fait une fois un gros blocus et là, en ce moment, ça va plus trop. Ça. On n'en fait plus beaucoup, on vient surtout faire des grosses manifs comme ça.
Et d'après vous, ça s'épuise ou c'est juste que ça a du mal à se mettre en place ?
Ça a plutôt du mal à se mettre en place en fait.
Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, la convergence des luttes ?
Ben c'est comme aujourd'hui quoi, c'est qu'il y a plusieurs causes qui se mettent ensemble pour monter un plus gros impact.
Ouais, moi c'est Michel, je travaille à la Française de mécanique. Hein. Voilà, on a appelé un mouvement de débrayage aujourd'hui pour être dans la rue en même temps que les cheminots. Bon, voilà, on discute dans notre entreprise, même si c'est pas toujours facile. En tout cas, on discute du fait que les attaques contre les cheminots, c'est une attaque contre les travailleurs. Le gouvernement s'attaque aujourd'hui dans tous les sens, sur tous les fronts. On sait très bien que derrière l'attaque sur les cheminots, il y en a une autre qui se prépare, c'est la suppression de 120 000 personnes, 120 000 emplois dans la fonction publique. Hein, et on sait que à la fois les chômeurs, les retraités, les jeunes et les anciens, hein, tous, on est attaqués. Et le combat des cheminots, quelque part, c'est le combat contre la politique de Macron. Et ça nous concerne tous.
Toi, tu es salarié du privé, donc tu n'es pas concerné par une quelconque réforme actuellement en œuvre.
Si, on l'est indirectement, parce qu'évidemment, les droits des patrons dans le privé sont renforcés par la politique du gouvernement, hein, par la casse, y compris du Code du travail, par la remise en cause des conventions collectives, par la remise en cause, y compris des tribunaux de justice, du prud'homme, etc. etc. Ça veut dire que, d'un point de vue juridique, les travailleurs sont affaiblis par les réformes en cours. Bon, donc voilà, il y a des attaques en cours déjà, bien sûr, qu'on ne mesure pas tous parce que les patrons ne les ont pas encore toutes utilisées, mais bien sûr que ce n'est pas que la fonction publique et certainement pas que les cheminots qui sont concernés. Ben oui, la convergence des luttes, ça devrait être dans toutes les têtes parce que, quelque part, il y a une convergence des attaques. Le Premier ministre, là, il a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il ne voyait pas, lui, il voyait pas ce qu'il y avait de commun entre la lutte pour les salaires à Air France, hein, ou la lutte pour, y compris les salaires ou l'emploi à Carrefour, et puis les luttes des cheminots, hein, comme si c'était des choses qui sont complètement différentes et qui ne nous donnent aucune raison d'être ensemble dans les rues. Mais bien sûr que si, ça fait partie du même volet d'attaque. Les travailleurs, aujourd'hui, où qu'ils soient, hein, payent cette politique de ces gouvernements, payent aussi le fait que le patronat se sent tout puissant, hein, et que partout, il diminue les salaires, il diminue l'emploi, que le patronat n'a qu'une seule préoccupation, c'est d'augmenter les profits. Hein, et on le voit parce que les profits explosent. Hein, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer tout un tas de choses, pour payer l'emploi dans les hôpitaux, pour payer de l'emploi dans les transports, pour payer les gens correctement partout. Mais l'argent, il y en a dans les caisses des patrons. Hein, à PSA, ils n'ont jamais fait autant de profits. Et dans l'industrie automobile, bien sûr que les profits explosent. Hein.
Je suis parfois prof, parfois formatrice de français langue étrangère pour les personnes étrangères. Eh bien, en fait, en tant que France Insoumise, on pense que c'est très important de défendre le service public et que ce qui arrive actuellement à la SNCF, le but, c'est justement de détruire la SNCF comme service public, de même qu'on le fait dans les hôpitaux, y compris les EHPAD et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on est là, en fait. Convergence des luttes, enfin, c'est ensemble, c'est vrai, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire céder, mais à condition que ce travail ensemble, il peut se faire que sur des combats particuliers. Les gens ne vont pas faire la convergence des luttes pour faire la convergence des luttes. Ils vont le faire parce qu'ils sentent que c'est le même problème pour chacun, qu'on soit à SNCF ou aux EHPAD, etc. C'est le même ennemi, et il faut qu'on agisse ensemble. Mais ils ne vont pas faire convergence pour convergence. Hein.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, on va dire, intensifier la grève?
Ben, je suis pas syndiqué SNCF, donc je pense que c'est déjà lourd pour les. Hein, donc c'est déjà lourd de tenir ça.
Ben, moi j'aimerais bien. Moi je suis retraité, ancien professeur de mathématiques, mais j'aimerais bien qu'il y ait grève générale, mais je crois que ça va être difficile de réaliser ça. Mais bon. En tout cas, j'appelle tous les citoyens à venir le 5 mai à Paris pour faire la fête à Macron.
Est-ce que cette fête à Macron, elle tendrait pas à dissocier, quoi, être anti-convergence des luttes?
Non, non, ça a été un appel de François Ruffin et Frédéric Lordon à la Bourse du Travail à Paris, qui appelle justement à tous les partis, les syndicats, à se regrouper, à faire une journée de mobilisation en commun, quoi. Voilà, c'est ça.
Mais pourquoi ce ne serait pas aujourd'hui?
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de semaine. Il y a des gens qui travaillent. Et le samedi 5 mai, c'est un samedi. Donc tous les gens peuvent venir. Ce ne sera pas un jour de non payé.
Ça fait un peu mobilisation du dimanche quand même, parce que le principe de la grève, c'est de peser aussi sur l'économie, comme vous l'avez dit, et vous appelez vous-même
à une grève générale. Alors, est-ce que c'est pas contradictoire avec les grèves du samedi après-midi ?
Bah, disons, il y a plusieurs formes de lutte. Bon, la grève générale, on n'y est pas encore, mais disons que le 5 mai, ça risque d'être un premier pas. Justement, si on est vraiment très très nombreux, ben peut-être qu'après, il se passera quelque chose dans le pays. Hein, peut-être un nouveau mai. Un mai 2018 semblable à mai 68, quoi, voilà.
Chez nous, à la Brousse, le travail nous tient à l'extérieur. Toutes les places de France ont le temps sans barricade. Le syndicat, c'est une famille qui veille sur toi.
C'était donc un reportage de Luc lors de la manifestation du 19 avril à Lens. Nous en profitons pour évoquer un point particulier de la grève, il s'agit de la question financière. Les cheminots sont engagés dans un combat qui va au-delà de la simple défense de leur statut ou de la SNCF. Il s'agit également d'un combat pour défendre le service public. Une cagnotte a été créée pour les soutenir financièrement. À ce jour, plus de 850 000 euros ont été collectés et alimentent la caisse de grève. C'est d'ores et déjà un très bon résultat, mais il importe de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Pour contribuer vous aussi, rendez-vous sur le site internet litchi.com, L2ETCHI.com, et tapez « Solidarité avec les cheminots grévistes ». Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Et nous continuons avec le groupe toulousain Bruit qui court. C'est maintenant un nouveau morceau que nous inspire l'actualité sociale. Il s'agit de « Ne baisse pas les yeux ». Nous avons particulièrement apprécié la phrase scandée par le chanteur de Bruit qui court « Baisser les yeux, c'est perdre ».
Qui brûle tes entrailles, te rappelle pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu refuses leur confort, pourquoi tu refuses leur routine. Pourquoi tu refuses de devenir l'ombre qu'ils rêvent de te voir devenir. Pourquoi tu refuses de disparaître dans leur choix de vie. La voie toute tracée qui ne demande en échange que l'abandon de cette urgence qui brûle tes entrailles. L'abandon de cette urgence. L'abandon de cette urgence. Cette urgence.
Alors regarde-moi. Ne baisse pas les yeux. Non, ne baisse pas les yeux. Baisser les yeux c'est perdre. Et j'ai trop perdu. Alors regarde-moi. Ne baisse pas les yeux. Non, ne baisse pas les yeux. Baisser les yeux c'est perdre. Et j'ai trop perdu.
Alors regarde-moi. Ne baisse pas les yeux, non. Regarde-moi. Regarde-moi. Comme une solution. Comme l'urgence qui brûle tes entrailles. Te rappelle pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu passes ton temps à filer des coups de pompe dans toutes les portes du monde, à la recherche d'un nouvel horizon, à la recherche de cette lumière, à la recherche de cette seconde qui te hurle à la gueule que tu existes. Cette seconde absolue, définitive, qui ne demande rien en échange. Cette seconde ne demande rien. Cette seconde ne demande rien. Cette seconde.
Alors regarde-moi. Ne baisse pas les yeux, non, ne baisse pas les yeux. Baisser les yeux, c'est perdre. et j'ai trop perdu. Alors regarde-moi, ne baisse pas les yeux, non, ne baisse pas les yeux. Baisser les yeux, c'est perdre, et j'ai trop perdu. Alors regarde-moi, ne baisse pas les yeux, non. Baisser les yeux, c'est perdre. Baisser les yeux, c'est perdre.
Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Aujourd'hui, nous revenons sur le festival Bobine Rebelle qui s'est déroulé au LAG la semaine dernière. Microrebelle y était et avait diffusé une interview de Louise et Sarah qui nous présentaient ce chouette festival. Cette interview est disponible sur microrebelle.fr. D'ores et déjà, je vous invite à écouter en podcast ou en téléchargement notre émission L'actualité vue par les jeunes. Ces jeunes ont participé à la projection du film de Régine Abadia, Entre deux sexes, consacré aux personnes intersexes. Ils et elles ont discuté avec Régine Abadia, qui était présente à Bobine Rebelle, et ont réalisé une émission complète autour de ce film et de la thématique intersexe. N'hésitez pas à les écouter sur micro-rebelle.fr. Pour l'heure, je vous invite à écouter Louise, qui tire quelques conclusions à chaud concernant l'édition 2018 de Bobine Rebelle. Elle pointe notamment le fait que de nombreuses personnes ont adopté la posture festivalier et festivalière en assistant à l'ensemble des projections.
Peut-être la singularité de cette édition-ci, ça a été la présence sur toute une série de films d'un même groupe de spectateurs, en fait. D'habitude, ça va, ça vient. Il peut y avoir une influence plus conséquente sur certains films, et puis d'un seul coup, on se retrouve à 15 à regarder un film. Et là, on était une quarantaine de personnes à peu près tout le temps, et je sentais que, voilà, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des éditions, il y a des gens qui jouent le jeu de vraiment venir et d'assister à plusieurs films et de se laisser percuter par plusieurs films et de voir comment ça résonne et de prendre goût à ça, à passer la journée tous ensemble. Et ça, c'est un peu nouveau. C'est pas du tout dans les habitudes, je pense, au départ de n'importe qui, de se dire « Ah ouais, je vais aller m'enchaîner une série de films ». Et il y a un truc qui prend, mais c'est la première année que je vois ça. Et c'est un peu marrant parce que du coup, c'est aussi la première année où... Par hasard, hein, je pense, mais les réalisateurs qui sont venus, surtout les réalisatrices, puisque donc il y avait 4 réalisatrices et un réalisateur, pour la plupart, sont venus pour toute la durée du festival. Eux aussi, ils ont joué le jeu d'être là tout le temps. Et puis, je pense que c'est... Moi, je vois ça, en tout cas, comme vraiment singularité. Sinon, on retrouve les mêmes ingrédients que d'habitude, qui est cette idée de le faire simplement à la bonne franquette et puis de se donner le temps de l'échange, quoi. Et de l'échange où chacun peut prendre la parole, il n'y a pas d'experts. Et vraiment le fait d'être en cercle et de pouvoir s'exprimer en se voyant tous. C'est moi qui ai fait plein d'autres festivals de documentaires, ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans une salle de cinéma et de devoir lever timidement la main pour prendre un micro. Là, c'est vraiment très agréable.
Peut-être on peut dire que le niveau des échanges était quand même extrêmement chouette.
Oui, mais j'ai plein de souvenirs de niveau d'échange très chouette. Enfin, ça, en tout cas, moi, vraiment, ce que j'ai relevé, c'est ce que je t'ai dit. Mais je pense que voilà, à partir du moment où ça fait... on a été ensemble le matin, l'après-midi et tout, on a un autre niveau d'échange aussi... un autre niveau d'écoute peut-être. Enfin, voilà, on se dit pas les mêmes choses que si on débarquait à froid et qu'on voyait un film et qu'on réagissait. Donc voilà, c'est peut-être ça.
C'est une question piège parce que là on est encore complètement dans ce Bobine Rebelle, mais t'aurais envie de quoi pour la suite ?
Eh ben, en fait, pour la suite, j'aurais envie qu'il y ait encore une ou des nouvelles personnes qui rejoignent le groupe Docu qui organise cet événement. Parce que tous les ans, on a toujours eu quelqu'un de nouveau qui venait. Et moi, je trouve ça hyper important que voilà, sans arrêt, il y ait des nouvelles personnes qui rejoignent cette aventure-là. Donc, j'aurais tout simplement envie de ça, que ça continue. Je pense que j'ai un souvenir très fort de la 3e édition où on a eu des personnes du quartier. Ça n'a pas été le cas cette année, quand même. Et je continue de me dire qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et on a essayé de le faire cette année, mais... voilà, il faut continuer. En plus, bah, des fois, les personnes viennent pas parce qu'elles sont prises ce jour-là, tout simplement. Mais du coup, voilà, je me dirais, continuer à labourer ce terrain-là. Et puis, sinon, moi, je suis pour garder cette formule du vendredi soir et de la journée du samedi. L'enjeu, c'est pas de grossir. Enfin, voilà, c'est de continuer à vivre cette expérience-là régulièrement, parce que c'est chouette que ça ait lieu tous les ans. Je pense que c'est un repère et c'est chouette. Mais... moi, j'ai pas du tout. Enfin, je trouve ça très bien comme ça. J'ai pas du tout envie que ça devienne plus gros, plus grand, plus je sais pas quoi. Juste, voilà, encore plus diversifié en termes d'implication de personnes et puis de public. Ce serait. Voilà, je crois qu'on a surtout du boulot là-dessus.
Eh bien, merci Louise. Et puis donc, la perche est tendue à nos auditrices et nos auditeurs pour rejoindre le groupe Docu.
Oui, le groupe Docu du Lag qui prépare Bobine Rebelle chaque année. N'hésitez pas à les contacter en écrivant à groupe.docu au pluriel @lelag.fr. Nous allons maintenant rester à Bobine Rebelle et nous intéresser au film qui a été projeté le samedi matin. Il s'agit de La Baraque, réalisé par Vincent Zek. À La Baraque, qui est un quartier autogéré fait de roulottes, cabanes et autres maisons autoconstruites, chaque jour est un jour à inventer collectivement. En 2014, ce projet de vie alternative est bousculé par la construction d'un parking de plus de 3000 places. Comment le quartier va-t-il survivre à cela? On commence par écouter la réaction de deux spectateurs à l'issue de la projection et nous donnons ensuite la parole à la réalisatrice, Vinciane Zek.
Alors, la vision de ce film, je trouve ça vraiment très intéressant, la description de cette... C'est une utopie, hein, on peut appeler ça une utopie. Aussi bien du point de vue du vivre ensemble que du fait de proposer une façon différente d'aborder la notion de propriété, la notion de se loger et puis d'interagir les uns avec les autres dans la vie de tous les jours. Moi qui suis justement en train de chercher un endroit où je vais m'installer pour vivre, ça me questionne aussi sur les choix que je peux avoir à faire pour mon futur logement.
En fait, moi, j'ai beaucoup de... En fait, quand on voit le film, c'est vrai que le film fait mal en quelque sorte et en même temps, il énerve. Parce que quand on voit tout ce qui est broyé sur la zone, les arbres, toutes les baraques, il plie en deux la communauté. Belle communauté, quoi, des habitats... super originaux, écolo, et derrière il n'y a pas de résistance, un peu comme à la ZAD où d'un côté il y a une résistance symbolique, on va dire avec des spectacles, enfin une résistance plutôt pacifique, mais de l'autre côté il y a pas, on voit les bulldozers qui arrivent et les gens sont à côté, ils voient alors la zone qui est complètement mise à sac et il n'y a pas de résistance physique. Et pour moi, ça, on est les bras ballants devant ça et ça fait mal, quoi. Ça demande la réaction quasiment. Moi, je suis prêt à sauter du siège, quoi. En quelque sorte, quoi.
Est-ce que tu peux nous préciser quelle est l'histoire de ce film, Quartier Libre, et ce qui t'a amené à le réaliser ?
L'histoire de ce film, en fait, c'est un film sur un quartier d'habitation alternatif. À Louvain-la-Neuve, et c'est un quartier dans lequel j'habite depuis 20 ans, et c'est un quartier qui existe depuis 40 ans. Donc ce qui m'a amené à faire ce film, c'est d'y habiter, d'y vivre, et puis de me dire qu'il fallait laisser une trace de ce mode de vie, de ce qui se passait, surtout au vu de l'actualité, parce que, voilà, à un moment donné, il était question qu'un parking de 3000 places vienne déloger certains logements de ce quartier, et c'est à ce moment-là que l'envie de faire le film s'est complètement concrétisée parce que je me suis dit que c'était, voilà, qu'il fallait laisser une trace de ça. Et donc voilà, c'est pour donner un peu une idée, c'est un quartier où il y a 160 habitants qui existe depuis plus de 40 ans, qui est un terrain squatté à 30 km de Bruxelles et où vivent ben voilà, une quarantaine d'enfants, des familles, des gens d'un peu tous les horizons qui ne se choisissent pas forcément. Donc c'est très diversifié, voilà, tout le monde ne pense pas de la même manière, mais c'est un lieu de vie collectif et autogéré.
Ce film, Un quartier libre, il est présenté au LAG, le lieu autogéré du bassin minier. Dans le cadre du festival Bobine Rebelle, lieu autogéré, le LAG, donc ça fait forcément résonance avec ce que tu viens de dire, ça fait forcément résonance avec le film Quartier Libre, qui se déroule, tu l'as dit, à la baraque, un quartier autogéré à 30 km de Bruxelles. Alors comment est-ce que ça fonctionne l'autogestion à l'échelle d'un quartier?
En tout cas, dans ce quartier-là, ça fonctionne de plusieurs manières. C'est-à-dire que donc, c'est, vu le nombre d'habitants qu'il y a, il y a des sous-quartiers, donc il y a trois sous-quartiers, et donc dans chaque sous-quartier, il y a des façons de décider de s'organiser différentes. Il y a une partie, donc un des sous-quartiers qui fonctionne, qui vote assez vite, donc c'est une autogestion, mais où le vote a une place. Il y a une autre partie, un autre sous-quartier où le vote n'est jamais d'actualité, donc c'est toujours au consensus. Et encore la troisième partie, elle fait carrément pas de réunion, et donc c'est plus de manière informelle qu'elle s'organise. Et puis il y a les réunions de grands quartiers où là, il y a un tiraillement entre une autogestion au consensus et puis une autre façon de décider qui est de voter avec une majorité. Et donc en général, on essaie quand même d'aller vers le consensus puisqu'il y a une grosse partie du quartier qui ne veut pas voter. Et donc les décisions se prennent tous ensemble, en tout cas avec ceux qui veulent s'investir, ceux qui ont un peu de temps et surtout de l'envie et du courage, parce que parfois une décision assez simple peut prendre un an, deux ans, dix ans, selon l'importance et selon chacun, chacune, comment il réfléchit, comment il veut bien faire des consensus ou pas par rapport à ses propres limites.
Typiquement, parce que ça nous intéresse effectivement beaucoup à Micro-Rebelle, hein, de labourer ce terrain d'autogestion. Ces réunions, elles ont lieu tous les combien? Elles réunissent combien de personnes? Et puis, quelles sont les questions qui se posent? Quelles sont les thématiques abordées lors de ces questions au sein de ce que tu appelles le petit quartier, le grand quartier?
Alors, ce qui se gère en petit quartier, c'est tout ce qui est le logement. Donc, si quelqu'un veut agrandir, si quelqu'un veut s'installer à tel ou tel endroit, c'est par sous-quartier que ça se décide. Donc, est-ce qu'il y a encore assez de place? Est-ce que ça ne mange pas trop d'espace vert? Il faut savoir que le terrain, il n'y a pas de voiture, donc... l'idée c'est que toutes les maisons sont au milieu de la nature, des arbres, etc. et que les logements sont très petits. C'est un choix collectif qui est que si les logements sont petits, ben, y en a un peu plus et donc il y a plus de gens qui peuvent y vivre et que l'espace extérieur ben, est collectif commun. Et donc là c'est pareil, c'est en petit sous-quartier que ça se décide de l'espace commun, comment l'aménager, faire des week-ends de chantier collectif où on réaménage les chemins, où on fait la taille des arbres, etc. Et alors, en réunion de grand quartier, c'est plus l'enjeu général du quartier avec la commune, avec l'université de la ville, parce que c'est une ville universitaire, et donc le propriétaire du terrain, c'est l'université. Et donc, il y a des négociations à faire avec les pouvoirs politiques et les propriétaires. Et donc ça se gère en grand quartier. Et là, alors à ce moment-là, on demande à des représentants du quartier, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, des négociateurs, on va les appeler, qui vont négocier pour le quartier une pérennité ou des espaces. Enfin, voilà, quand on s'est fait amputer une partie du quartier, il a fallu négocier un espace pour reloger les gens, etc. Il y a beaucoup de choses à gérer en grand quartier. La temporalité des réunions n'est pas définie. Donc si on a besoin, on fait des réunions. Si on n'a pas besoin, en grand quartier, ça arrive que pendant un an, il n'y ait pas de réunion. Après, ça se sent parce que ça veut dire qu'il y a moins de cohésion, mais voilà, il n'y a pas une régularité ni dans les sous-quartiers, ni dans le grand quartier.
Ce qui m'interpelle dans ce que tu me dis, c'est le consensus, autrement dit le fait de débattre au consensus. Comment c'est appréhendé? Parce que tu évoques par exemple les questions d'un habitant ou d'une habitante qui veut agrandir sa maison ou son terrain. Donc il y a aussi des questions d'intérêts personnels qui peuvent s'opposer à d'autres intérêts personnels, donc avec émergence de conflits. Hein, dans tous les groupes, il y a des conflits qui se font jour. Le consensus permet bien de régler ça, ça prend du temps, comment c'est vécu?
Je dirais que la plupart du temps c'est bien vécu, que ça prend beaucoup de temps, et que donc je pense qu'il y a un moment donné où les gens qui vont rester longtemps en quartier, c'est des gens qui ont la patience du consensus.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Radio associative, libre et sans pub. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.